Un adolescent, livre 3, chapitre 12. 1. Je trouvai enfin Tatiana Pavlovna. Je lui exposai tout ce qui était relatif aux documents et tout ce qui se passait chez moi. Cette relation nous occupa 10 minutes. Je parlais seule, je disais toute la vérité et je ne sentais nulle honte. Elle était assise, roide, les lèvres serrées et sans détacher ses yeux de moi. Écoutait de toutes ses forces. Dès que j'eus terminé, elle bondit vers moi, et si brusquement que je me levai aussi. « Ainsi, cette lettre se trouve réellement cousue dans ta poche? Et c'est cette sotte Maria Ivanovna qui l'a cousue? Ah, les laides canailles! Alors tu venais ici pour vaincre les cœurs, pour conquérir le grand monde. Tu voulais prendre ta revanche de ton illégitimité. Je vous défends de m'injurier !» criai-je. Il se peut qu'avec vos injures, dès le commencement, vous ayez été la cause de mon exaspération. Oui, je suis un fils naturel, et peut-être réellement voulais-je me venger. Mais rappelez-vous que j'ai repoussé l'alliance des méchants et que j'ai vaincu mes passions. Sans rien dire, je mettrai le document devant elle et je m'en irai. Vous serez vous-même témoin. Donne la lettre. Pose tout de suite la lettre sur la table. « Mais tu mens peut-être. »« Elle est cousue dans ma poche. Maria Ivanovna l'a cousue la première fois, et depuis je la couds moi-même dans ma redingote nouvelle quand je jette l'ancienne. Tenez, tâtez, je ne mens pas. »« Donne-la, retire-la » trépigna-t-elle. « Non, je vous le répète, je la déposerai devant elle, vous présente, et m'en irai sans attendre un mot. » Mais il faut qu'elle voie de ses yeux que c'est moi, moi-même qui la lui livre, de mon plein gré et en toute générosité. Encore se glorifier! Tu es amoureux, Blanc-Bec? Oh, que je lui apparaisse un bagarnement, qui la guettait et qui tramait contre elle un complot, n'importe. Mais que du moins elle reconnaisse que je me suis vaincue et que j'ai mis son bonheur plus haut que tout au monde. Je me crie à moi-même. Courage et espoir. J'entre noblement dans la vie. Et qu'est-ce que cela fait que je l'aime? Continuai-je, les yeux étincelants. L'aimer, je n'en ai pas honte. Maman est un ange du ciel, et elle une reine de la terre. Versilov retournera chez maman. Je n'ai pas besoin d'avoir honte. J'ai entendu ce qu'elle et Versilov se sont dit là-bas. J'étais derrière le rideau. Oui, tous les trois. Nous sommes les gens de la même folie. Et savez-vous de qui est cette expression, les gens de la même folie? De lui, André Petrovitch. Et savez-vous que nous sommes peut-être plus de trois de la même folie? Mais je gage que vous aussi, la quatrième, êtes une personne de la même folie. Voulez-vous que je dise? Je gage que vous-même vous fûtes amoureuse toute votre vie d'André Petrovitch. Et peut-être brûlez-vous encore. » Je n'eus pas le loisir de continuer. Elle abattit ses serres dans ma chevelure et tira de deux brusques secousses furieuses. Puis, me lâchant, elle se réfugia dans une encoignure et, face à la muraille, le visage enseveli dans son mouchoir, sanglota. « Blanc-Bec, ne t'avise plus jamais de me répéter cela !» J'étais un peu ébaubi. « Oh, le nigaud! Viens ici! Embrasse ta sotte » dit-elle tout à coup d'une voix de chantepleurs, « et n'ose jamais répéter. Mais je t'aime et je t'ai toujours aimé, bêta !» Je l'embrassai. C'est de cette minute que je suis devenue l'amie de Tatiana Pavlovna. « Ah oui, mais qu'est-ce que je fais donc ? » exclama-t-elle en se frappant le front. « Voyons, que dis-tu ? « Le vieux prince est chez ton logeur, est-ce vrai ?»« Oui. »« Ah, Dieu » grommelait-elle en courant par la chambre comme un rat. « Ils lui font la loi depuis ce matin. »« Et Anna Andreevna, en voilà une nonne. »« Et l'autre, la militrice, qui ne se doute de rien. »« Quelle militrice ?»« Mais ta reine de la terre, ton idéal. »« Ah, que faire ?» « Tatiana Pavlovna, nous nous perdons en futilité et nous oublions le principal. Je suis venue expressément pour chercher Catherine Nikolaïevna. Tout le monde là-bas attend mon retour. » Et j'expliquais que je ne rendrais le document que contre promesse de réconciliation avec Anna Andreïevna et consentement à son mariage. « Que n'es-tu venu plus tôt ? 8 heures. Elle est chez les Petitchev où elle dîne. Ensuite, elle va avec eux à l'opéra. Puis-je l'y rejoindre ? Non, impossible. Que deviendrait le vieillard ? Il peut mourir dans la nuit. Écoute, n'y va pas. Va chez ta maman. Couche-y et demain matin. Non, pour rien au monde, je n'abandonnerai le vieillard. Soit, ne l'abandonne pas. Tu as raison. Moi, je vais tout de même courir chez elle. Je lui laisserai un billet. Tu sais, j'emploierai nos termes maçonniques. Elle comprendra que le document est ici et qu'il faut qu'elle vienne le chercher demain matin à 10 heures précises. Tout s'arrangera. Et toi, cajole le vieux tant que tu pourras. Décide-le à se reposer. Peut-être traînera-t-il jusqu'au matin. N'effraie pas, Anna. Je l'aime aussi. Tu es injuste envers elle, parce que tu ne peux pas comprendre. Elle est offensée. Elle fut offensée dès l'enfance. Oh, vous m'êtes tombés tous sur les bras. Et n'oublie pas de lui dire, de ma part, que je m'occupe moi-même de l'affaire et de tout mon cœur, et qu'elle soit tranquille, et que son orgueil ne subira aucune blessure. Ces derniers jours, nous nous sommes tout à fait brouillés, injuriés. Va vite. Attends, fais voir encore ta poche. Mais est-ce vrai? Est-ce vrai? Oh, est-ce vrai? Mais donne-moi cette lettre pour la nuit. Qu'est-ce que cela peut te faire? Laisse, je ne la mangerai pas. Il se peut que pendant la nuit tu la laisses échapper ou que tu changes d'avis. Non, non et non. Tâtez, palpez tant que vous voudrez, mais je ne vous la laisserai pas. Je vois que c'est un papier. Eh bien, va, et moi j'irai chez elle. Peut-être même me rendrai-je au théâtre. Ton idée était bonne. Mais cours, cours vite. Tatiana Pavlovna, attendez. Comment va maman? Elle n'est pas plus mal. Et André Petrovitch? Il se rétablira. 2. De l'escalier, j'entendis du bruit. Dans le couloir se tenait un valet que je ne connaissais pas. Pierre Hippolytovitch et son épouse, effarés, y stationnaient en l'attente de quelque événement. La porte du prince était ouverte et une voix tonnait que je reconnus. Celle de Bioring. Je n'avais pas fait 2 pas que j'aperçus Bioring et son compagnon, ce même baron R, déjà vu chez Versilov, emportant dans le couloir le prince. Celui-ci, tout en sanglotant, embrassait Bioring, lequel criait après Anna Andreïevna, qui pas à pas suivait le prince. Il la menaçait et, il semble, frappait du pied. En un mot, il se conduisait, malgré tout son grand monde, en bon soudard tudesque. On a su plus tard que sur la foi d'une lettre anonyme dont je reparlerai, il avait cru sauver le prince d'un guet-apens, d'où son outrancier sans gêne. Anna Andreïevna avait supporté l'assaut avec une grande dignité. J'entrai en scène au moment où Bioring, laissant le prince aux mains du baron R., se retournait rapidement vers Anna Andreïevna pour lui crier « Vous êtes une intrigante, vous en voulez à son argent. Dès cet instant, vous êtes condamnée par la bonne société. De plus, vous aurez à vous disculper devant les tribunaux. » « C'est vous qui exploitez le malheureux malade et qui l'aurez conduit à la folie. Et vous vous vengez sur moi parce que je suis une femme sans défense. » « Ah oui, vous êtes sa fiancée !» ricana-t-il férocement. « Baron, baron, cher enfant, je vous aime !» pleurnicha le prince en tendant ses mains vers Anna Andreïevna. « Venez, prince, venez, il y avait contre vous un complot et qui peut-être menaçait votre vie, » disait Bioring. « Oui, oui, je comprends, j'ai compris au commencement. » Prince, protestait-elle, vous m'insultez et vous permettez qu'on m'insulte. Retirez-vous, ordonnait Bioring. Je n'en pouvais pas tant supporter. Drôle, hurlai-je à mon tour. Anna Andreïevna, je suis votre défenseur. Ici, je ne veux ni ne peux raconter avec détail. La scène fut terrible et ignoble. Je frappais. Il répliqua. Atteint à la tête, je m'abattis. Tant bien que mal, je me relevais et je m'élançai derrière eux dans l'escalier. Je me souviens que le sang me coulait du nez. Devant la porte, une voiture. On y installait le prince. Malgré l'interposition du larbin, je me jetai de nouveau sur Buring. Là, je ne sais au juste comment, intervint la police. Buring me maintenait par le col et sommait le policier de me conduire au commissariat. J'objectais qu'il devait lui-même m'y suivre pour que procès-verbal fût dressé et que d'ailleurs il était inadmissible qu'on m'appréhendât presque dans ma maison. Mais comme l'affaire se passait dans la rue, que je tempêtais comme un sac à vin et que Buring était en uniforme, le policier me saisit. Écumant de fureur, je résistais et, paraît-il, le frappais. Deux autres surgirent. On m'emmena. Dans la salle peuplée de scribes et d'argousins où je fus introduit, je continuai à crier, réclamant un procès-verbal. Mais l'affaire, compliquée de tapage et de rébellion, exigeait des soins spéciaux. Un agent m'accusait de voie de fait. « Quel est votre nom ?» m'interpella un chef. « Dolgoruki. »« Prince Dolgoruki ?» Hors de moi, je répondis par une injure des plus ordurières, ce pourquoi on me traîna dans un cachot y cuvait mon vin. Je me jetai sur le lit de camp, où gisaient déjà deux gaillards ivres morts. La tête me faisait mal. Coup ou migraine. Mes oreilles bourdonnaient, mon cœur battait. Sans doute délirais-je. Je me rappelle seulement que je me suis réveillée tard dans la nuit. Je me mis sur mon séant, les coudes aux genoux, les tempes dans mes mains, et méditais. Je ne ferai pas la description de mes sentiments, je n'ai plus le temps. Je noterai seulement que je vécus là des minutes ineffables, dans l'obscurité lénifiante, sous la garde de bons murs, de ces minutes de lucidité bénie où l'on commande à la destinée. Puis, je m'endormis d'un sommeil d'enfant. Je me réveillai tard. Il faisait jour. J'étais seul. J'attendis longtemps, une heure environ. Il devait être près de 9 heures lorsqu'on m'appela. J'aurais pu raconter avec plus de détails, mais quel intérêt aurait-il? Tout cela n'est qu'accessoire. Je constaterai seulement qu'on me traita avec une politesse inattendue. On me demanda quelque chose, je répondis je ne sais quoi, et on me donna licence de filer. Je sortis sans rien dire, mais dans leur regard, je lus avec satisfaction de l'étonnement. Il semblait qu'ils ne fussent pas habitués à voir un homme garder dans cette situation sa dignité. Si je n'étais pas sûr de ma remarque, je ne la consignerais pas ici. À la porte m'attendait Tatiana Pavlovna. En deux mots, j'expliquerai comment tout s'était arrangé. Vers 8 heures du matin, elle était accourue chez moi, c'est-à-dire chez Pierre Hippolytovitch, espérant encore y trouver le prince. Là, elle avait appris les catastrophes de la veille, et notamment mon arrestation. Elle s'était précipitée chez Catherine Nikolaïevna, qui, au retour du théâtre, avait retrouvé son père à domicile. Elle l'avait réveillé, l'avait effrayé, exigeant ma délivrance immédiate. Munie d'un billet de Catherine Nikolaïevna, elle avait couru chez Buring et lui avait extorqué un autre billet pour qui de droit, portant prière instante de me délivrer sur l'heure, mon arrestation étant le fait d'un malentendu. On sait le reste. 3. Tatiana Pavlovna me fit monter dans sa voiture et m'emmena chez elle. D'abord, elle réclama le samovar. Puis elle me débarbouilla et me nettoya dans la cuisine. Dans la cuisine aussi, elle m'annonça à haute voix, et Marie put l'entendre, qu'à 11h30 arriverait Catherine Nikolaïevna, ainsi qu'il avait été convenu entre elles dans leur entrevue du matin. Quelques minutes après, Marie servit le samovar. Mais 2 minutes après, Tatiana Pavlovna l'appelait en vain. Elle était sortie. Je pris le lecteur de son souvenir. Il était, à ce que je suppose, 10h15. Quoique Tatiana Pavlovna réprouva cette disparition non autorisée, elle s'était dit que la finnoise faisait une commission chez quelque fournisseur et n'y avait plus pensé. Nous causions de nos soucis et le temps fuyait. L'idée que dans une heure je verrais enfin Catherine Nikolaïevna me donnait des frissons. Deux tasses bues, Tatiana Pavlovna prit des ciseaux et dit « Donne la poche, il faut retirer cette lettre. Ce n'est pas devant elle que nous ferons cela. » « Oui, » et je déboutonnai la redingote. « Qui est-ce qui a fait ce beau bousillage? Qui a cousu ça? » « Moi-même, moi-même, Tatiana Pavlovna. » « On s'en aperçoit. Enfin, voilà la lettre. » C'était bien la même vieille enveloppe, mais elle contenait une feuille blanche. « Qu'est-ce là ? » exclama Tatiana Pavlovna en retournant le papier. « Qu'as-tu ? » Je restais muet, pâle, et tout à coup je m'affaissai sur une chaise où je faillis m'évanouir. « Voyons, Arcade, où est donc la lettre ? » « Lambert ! » devinai-je soudain. Suffoquant, je lui expliquai tout, et la nuit chez Lambert, et notre complot que, d'ailleurs, je lui avais avoué déjà. « On l'a volé ! On l'a volé ! » criai-je, trépignant et les poings crispés dans mes cheveux. « Quelle heure est-il ? » demanda-t-elle. Il était près d'11 heures. « Et Marie qui n'est pas là ! Marie ! Marie ! Voici, madame ! » répondit Marie de la cuisine. « Tu es là ? Mais que faire à présent? Je vais courir chez elle. Ah, propre à rien que tu es! Et moi, chez Lambert, et je l'étranglerai s'il le faut. » Mais de la cuisine, Marie piaillait. « Madame, il y en a une qui demande après vous. » Elle n'avait pas achevé que cette « une » entra avec crise et sanglots. Alphonsine. Je ne donnerai pas le détail de cette scène de fourberie, mais il faut reconnaître qu'Alphonsine la joua admirablement. Avec les pleurs du repentir et des gestes fougueux, elle raconta à toute vapeur, et en français naturellement, qu'elle-même avait décousu la lettre, que cette lettre était maintenant chez Lambert, et que Lambert et ce brigand, cet homme noir, ont le moyen d'attirer chez eux Madame la Générale, et qu'ils vont la tuer dans une heure, qu'elle a appris de tout cela et que subitement elle a eu peur, ayant vu un pistolet chez eux. Le pistolet, et qu'elle s'est précipitée chez nous pour que nous allions sauver Madame la Générale. Cet homme noir... Rien de tout cela n'était invraisemblable, et le saugrenu de certaines explications d'Alphonsine y ajoutait même un vernis de véracité. « Quel homme noir ? » dit Tatiana Pavlovna. « Tiens, j'ai oublié son nom. Un homme affreux. Tiens, Versilov. »«
Versilov ? C'est impossible. »«
Si, c'est possible !» glapit Tatiana Pavlovna. « Mais parle, petite mère, sans secouer les mains. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Explique, petite mère, raisonnablement. Je ne puis croire qu'ils veuillent tirer sur elle. » La petite mère expliqua ainsi. « Nota bene. » Tout était mensonge, je préviens de nouveau. Versilov restera derrière la porte, et Lambert, lorsqu'elle entrera, lui montrera cette lettre. Alors Versilov s'élancera et... Oh, ils feront leur vengeance. Cette dame, la générale, arrivera sans faute, tout de suite, parce qu'ils lui ont envoyé la copie de la lettre. Et elle verra tout de suite qu'ils ont cette lettre, et elle ira chez eux. Et la lettre est écrite par Lambert seul, et elle ne sait rien à propos de Versilov. Et Lambert s'est donné comme venant de la part d'une dame de Moscou. Nota bene, Maria Ivanovna. « Ah, j'ai des nausées !» gémissait Tatiana Pavlovna. « Sauvez-la, sauvez-la !» adjurait Alphonsine. On pouvait admettre que Catherine Nikolaïevna, recevant la convocation de Lambert, viendrait d'abord consulter Tatiana Pavlovna. Mais il pouvait arriver aussi qu'elle partît tout droit chez lui. Et alors, elle était perdue. Sans doute, il n'était guère plausible qu'elle se rendît si précipitamment au premier appel d'un inconnu. Pourtant, il fallait tenir compte de l'éloquence singulière d'un appel à quoi s'annexait la copie du document. Rapides observations. Et nous ne prétendions pas à faire, harcelés par le temps, l'analyse raisonnée des aveux de la demoiselle. Et Versilov l'égorgera. S'il s'est abaissé jusqu'à Lambert, il l'égorgera. Il y a le sosie, m'écriai-je. Ta pelisse, ton bonnet, décida tout à coup Tatiana. Et partons. Mène-nous, petite mère, tout droit chez eux. Ah, oh, c'est loin. Marie, si Catherine Nikolaïevna vient, dis-lui que je serai tout de suite de retour, qu'elle s'asseye et m'attende. Si elle ne veut pas m'attendre, ferme la porte et ne la laisse pas partir. Dis que je l'ai ordonné ainsi. Tu auras 100 roubles, Marie, si tu me rends ce service. Nous descendîmes l'escalier. Sans doute, on ne pouvait trouver rien de mieux, car en tout cas, le principal danger était dans l'appartement de Lambert. Et si Catherine Nikolaïevna venait d'abord chez Tatiana Pavlovna, Marie l'y retiendrait. Et pourtant, ayant déjà hélé un cocher, Tatiana Pavlovna changea de plan. « Va avec elle, et meurs là-bas s'il le faut, tu comprends ? Je te rejoins dans l'instant, mais je cours d'abord chez Catherine Nikolaïevna. Peut-être la trouverai-je, car tu as beau dire, ça me paraît louche. » Et elle courut chez Catherine Nikolaïevna. Alphonsine et moi, nous roulâmes vers le logis de Lambert. Je pressais le cocher et continuais à interroger Alphonsine. Elle se tirait d'affaire par des exclamations et par des larmes. Nous n'avions pas fait le quart du chemin que j'entendis derrière moi un cri. On m'appelait par mon nom. Je regardais. Trichatov nous rejoignait en voiture. « Où vas-tu » criait-il. « Et avec elle ? Avec Alphonsine ?» Trichatov, lui criai-je, vous avez dit vrai. Un malheur, je vais chez ce misérable. Partons ensemble, nous serons toujours plus nombreux. Rebrousse chemin tout de suite. Lambert ment, Alphonsine ment, le grêlé m'a dépêché. Ils ne sont pas à la maison. Je viens de rencontrer Versilov et Lambert en route pour la maison de Tatiana Pavlovna. Ils y sont maintenant. Je fis arrêter ma voiture et sauter dans celle de Trichatov. Jusqu'aujourd'hui, je ne puis comprendre comment je me décidais ainsi. Il est certain que je n'eus pas une hésitation. Alphonsine poussa des cris terribles, mais je ne sais même pas si elle poursuivit son chemin ou se lança à nos trousses. Je ne la revis plus jamais. Tout essoufflé, Trichatov m'initia à une machination que Lambert avait combinée avec le grêlé. Celui-ci, trahissant au dernier moment son complice, avait envoyé Trichatov chez Tatiana Pavlovna pour lui enjoindre de ne pas croire Lambert ni Alphonsine. Trichatov ajouta qu'il n'en savait pas plus long, le grêlé faute de temps ayant restreint à cela ses confidences. « De loin je vous ai vu partir, continua-t-il, et je me suis lancé à votre poursuite. » Pour éviter toute confusion, avant de décrire la péripétie, j'anticiperai une dernière fois. 4. La lettre, une fois volée, Lambert se mit en rapport avec Versilov. Comment celui-ci put-il s'accointer à celui-là? On le verra plus tard. L'important est qu'ici apparaît le sosie. Ayant réussi de ce côté, il lui restait à attirer Catherine Nikolaïevna. Affaire de ruse. Versilov lui affirmait nettement qu'elle ne viendrait pas. Mais Lambert, depuis cette avant-veille, où, le rencontrant dans la rue, je lui avais déclaré, par pause, que je restituerais la lettre dans l'appartement de Tatiana, en avait organisé la surveillance et avait suborné Marie par l'appât de 20 roubles. Un jour plus tard, le vol du document accompli, il conféra avec elle pour la deuxième fois et acquit son concours définitif contre promesse de 200 roubles. Voilà pourquoi, apprenant qu'à 11h30, Catherine Nikolaïevna et moi serions chez sa maîtresse, la Finnoise avait sauté dans une voiture pour aller en informer Lambert. Juste à ce moment, se trouvait chez celui-ci Versilov, lequel, séance tenante, avait imaginé le stratagème infernal. On dit que par moments, les fous sont prodigieusement rusés. La combinaison consistait en ceci. Nous attirer dehors, Tatiana Pavlovna et moi, coûte que coûte, et fût-ce pour un quart d'heure, mais avant l'arrivée de Catherine Nikolaïevna. Être aux aguets dans la rue, et aussitôt que nous sortirions, envahir avec la complicité acquise de la finnoise l'appartement de Tatiana et y attendre Catherine Nikolaïevna. Cependant, Alphonsine nous retiendrait par les moyens que lui suggérerait sa rouerie. Catherine Nikolaïevna avait promis d'arriver à 11h30, par conséquent bien avant que nous puissions être de retour. Naturellement, la réussite n'était pas certaine. Mais, argumentait-il, si cela ne s'arrange pas, rien n'est perdu encore, puisque le document nous reste. Or, cela s'arrangea, et ne pouvait pas ne pas s'arranger. Comment refuser d'accompagner Alphonsine? Quand la supposition, et si tout cela était vrai, constituait à elle seule un argument péremptoire. Et je le répète, le temps nous manquait pour réfléchir. 5. Trichatov et moi fîmes irruption dans la cuisine, où nous trouvâmes Marie demi-morte de peur. Elle avait vu dans les mains de Lambert, quand celui-ci était entré avec Versilov, un revolver, instrument qui ne figurait pas dans ses prévisions. Elle ne savait que penser, et dès qu'elle m'aperçut, elle s'élança vers moi. « La générale est arrivée après eux, et ils ont un pistolet !» Trichatov, restez dans la cuisine. Si je crie, accourez à mon secours. Je gagnai en tapinois la chambre à coucher, où, une fois déjà, je m'étais tenu aux écoutes, m'assis sur le lit, et l'œil à l'entrebâillement du rideau, regardait. Elle était assise sur le canapé. Lambert était debout devant elle, braillant comme un imbécile. Il avait la lettre en main. « Cette lettre coûte 30 000 roubles. Ça vous étonne? Elle en vaut 100 000, et j'en demande 30. » Quoique Catherine Nikolaïevna fût visiblement effrayée, elle le considérait avec une surprise méprisante. « Je vois qu'il y a ici un guet-apens, mais si réellement vous avez cette lettre... « La voilà, la voilà !» interrompit Lambert. « Voyez-vous-même, c'est tout ce qu'il y a de plus authentique. Allons, un billet à ordre de 30 000. Pas un copec de moins. Je n'ai pas d'argent. Libellez un billet à ordre, voilà du papier. Ensuite, vous irez chercher de l'argent. Moi, j'attendrai. Mais une semaine, pas plus. Lorsque vous m'apporterez la somme, je vous rendrai les faits et, en même temps, la lettre. » « On vous reprendra cette lettre aujourd'hui même si je porte plainte. »« Portez plainte? À qui? Et le scandale? Et nous qui montrerons la lettre au prince? On me la reprendra? Je voudrais bien savoir comment. Je mets mes documents en lieu sûr. Je la ferai tenir au prince par le canal d'un tiers. Ne vous obstinez pas, madame. Sachez-moi gré de ne réclamer plus. Un autre aurait encore exigé des amabilités. Vous savez... de ces amabilités qu'aucune jolie femme ne refuse dans des circonstances délicates. Vous y êtes. Vous êtes belle, vous. » Catherine Nikolaïevna se leva d'un bond, rougissante, et lui cracha à la face, puis se dirigea rapidement vers la porte. C'est alors que mon imbécile exhiba le revolver. « Ne bougez pas » cria-t-il, et, mis en fureur par le crachat, il l'avait saisie à l'épaule et la menaçant du revolver. Simple procédé d'intimidation, mais comme on a vu, il avait l'intimidation un peu lourde. Elle gémit, s'affaissa sur le canapé. Je m'élançai dans la chambre. Au même moment, par la porte du couloir, entrait Versilov. D'une prestesse éblouissante, il arracha à Lambert l'arme, l'en frappa à la tête d'un coup d'où le sang sauta. Assommée, la brute ne bougea plus. Catherine Nikolaïevna, en voyant Versilov, était devenue livide de terreur et s'était évanouie. Il se précipita. Je me rappelle son masque cramoisi, ses yeux injectés. Quoiqu'il eût remarqué ma présence, j'estime qu'il ne me reconnut pas. Il la saisit, inerte, l'enleva comme une plume et se mit à la porter par la chambre, comme on porte un enfant. La chambre était toute petite. Il allait d'un coin à l'autre et manifestement sans savoir ce qu'il faisait. D'un coup d'aile, sa raison s'était envolée. Je marchais derrière lui, attentif surtout au revolver qu'il avait machinalement gardé dans sa main droite et qu'il tenait tout contre la tête de Catherine Nikolaïevna. Une fois, il m'avait repoussé du coude, une autre du pied. Je voulais appeler Trichatov, mais je craignais d'irriter le fou. Enfin, j'écartai les rideaux et le suppliai de la mettre sur le lit. Il l'y posa, en effet, et resta près d'elle, en contemplation. Puis, se penchant, baisa deux fois ses lèvres pâles. Tout à coup, il fit le geste de brandir le revolver pour l'en frapper, se ravisa et le lui braqua sur le visage. De toute ma force, j'avais happé le poignet. Trichatov, à mon cri, accourut. Nous luttâmes contre le démon. Il réussit à dégager sa main et, tournant le revolver contre son cœur, pressa sur la gâchette. Je pus faire dévier le coup. La balle l'atteignit à l'épaule. Quand Tatiana Pavlovna entra, il gisait sans connaissance à côté de Lambert. Chapitre 13. Conclusion. 1. Près de 6 mois se sont écoulés depuis cette scène. J'ai inauguré une vie nouvelle et je vais délivrer le lecteur. Une question m'avait préoccupé tout d'abord. Comment Versilov a-t-il pu se lier avec un Lambert et quel but visait-il? En cette brève période tragique, le dernier jour et l'avant-dernier, il ne tendait vers aucun but défini. Une bourrasque de sentiments contradictoires désemparait sa raison. Je ne crois pas, en l'espèce, à un cas de folie proprement dite, d'autant moins qu'aujourd'hui il n'est nullement fou. Mais le sosie, je l'admets. Et le livre récent d'un spécialiste me confirme dans cette manière de voir. Le sosie marque le premier degré d'un grave dérangement d'esprit qui peut mener à une fin assez lamentable. Versilov, dans la scène de l'icône, exhibait à nu le mécanisme de son dédoublement. J'insiste sur cet épisode. Une malveillante allégorie ne se mêlait-elle pas à l'acte même de la destruction? Je le crois. Oui, une allégorie signifiant de la haine pour les espérances, les droits et le jugement de ces femmes, et c'est de concert avec ce sosie qu'il avait brisé l'icône. Tout cela, au surplus, n'est que ma conjecture. Malgré son culte pour Catherine Nikolaïevna, en lui s'était enracinée la plus sincère, la plus profonde méconnaissance de ses qualités morales. Embusqué derrière la porte, il se promettait le spectacle de son humiliation devant Lambert. Mais au vrai, se promettait-il quelque chose? Non, et il ne raisonnait pas. Il voulait tout simplement se tenir là, se montrer ensuite, lui dire n'importe quoi, et peut-être l'outrager, peut-être la tuer. Tout pouvait arriver alors. Seulement, il était venu avec Lambert, sans rien savoir, lui, de ce qui arriverait. J'ajouterai qu'il n'était pas armé. Le revolver appartenait à Lambert. Ému de la dignité fière dont se parait la victime, écœuré de la brutale lâcheté de Lambert, il avait surgi, et ensuite avait perdu la raison. Voulait-il la tuer? Encore une fois, il ne le savait pas lui-même. Mais il l'eût tuée et se fût tué, si nous n'avions maîtrisé sa main. Assez longtemps, il dut garder le lit, chez maman, bien entendu. Enfin, la plaie se cicatrisa. Maintenant que j'écris ces lignes, le printemps rayonne et nos fenêtres sont ouvertes. Maman est assise à côté de lui. Il lui lisse ses bandeaux, lui caresse les joues, la regarde dans les yeux, attendrie. Il ne la quitte pas. Il ne la quittera plus jamais. Il a même acquis le don des larmes, pour employer une formule de l'inoubliable Makar Ivanovitch. Du reste, il me semble qu'il a de longs jours devant lui. Sa franchise a une fraîcheur enfantine, avec de la mesure et de la discrétion. Il paraît bien équilibré, mentalement, quoique sa bosse d'idéalité ait gardé son plein relief. Je l'aime plus, certes, que je ne l'avais jamais aimé, et il m'eût été agréable de parler de lui à loisir, de préciser certains traits. Je noterai une anecdote récente. On était en temps pascal. Versilov, à peu près rétabli, manifesta qu'il voulait faire ses dévotions. Souci qu'il n'avait pas eu depuis quelque 30 ans. Voilà maman toute heureuse et qui s'ingénie à cuisiner les plus fins des plats de carême. Ce lundi-là et ce mardi, j'entendais Versilov fredonner « Voici l'anneau de Dieu » et parler avec éloquence des douceurs de la religion. Le mercredi, s'évanouit cette pieuse ardeur. Oui, quelque chose qu'il jugeait trop grotesque l'avait frappé dans les faits et gestes d'un officiant. Il revint, et avec un bon sourire, « Mes amis, dit-il, j'aime Dieu, mais il y a des choses qui m'agacent. » Le même soir, on servit un rosbif. Maman ose maintenant lui parler à cœur ouvert. Elle ose, quel événement! Il leur arrive même de s'entretenir de sujets tout abstraits. Lui l'écoute gentiment. Mais il a parfois des sortes de crises presque hystériques. Il prend alors la grande photographie, celle-là même que je lui avais vue baiser ce fameux soir. La regarde avec des yeux en larmes, la baise, nous appelle tous, mais il parle peu en ces moments-là. Il semble avoir tout à fait oublié Catherine Nikolaïevna. Pas une fois il n'a prononcé son nom. Du mariage avec maman, rien n'est dit non plus. Nous voulions le mener cet été à l'étranger, mais Tatiana est hostile à ce projet. Lui-même y est indifférent. Ils passeront donc l'été à la campagne, dans le district de Pétersbourg. À ce propos, que je dise que, provisoirement, nous vivons tous sur les ressources de Tatiana Pavlovna. J'ajoute que je me repens d'avoir, au cours de ce journal, traité irrespectueusement parfois cette personne. Mais quand j'écrivais, je me replaçais dans l'état d'esprit qui était mien au fort de l'événement. Aussi, parvenu aux lignes dernières de mon journal, je m'aperçois qu'à me revivre idéalement, j'ai digéré mon expérience, me suis fortifié et rassi. De ce journal, je renie maint passage, et surtout le ton de certaines phrases. Pourtant, je n'effacerai rien, ne modifierai pas un mot. J'ai dit qu'il se tait sur Catherine Nikolaïevna. Même, je le crois guéri. Mais Tatiana Pavlovna et moi, il nous arrive de parler d'elle en catimini. Elle voyage à l'étranger avec les Pelitchev. Avant son départ, elle m'a reçu chez elle plusieurs fois. Depuis, elle m'a déjà écrit 2 lettres. Je me tairai sur leur teneur et sur ce que nous nous sommes dit aux adieux. Ceci est une autre histoire. Une histoire tout à fait nouvelle, et qui, si l'on veut, n'existe qu'en puissance. Il est des choses que je tais même à Tatiana. J'ajouterai que Catherine Nikolaïevna n'est pas mariée. Son père est mort, elle est une des plus riches veuves de l'Empire. En ce moment, elle est à Paris. Sa rupture avec Bioring s'effectua le plus naturellement du monde. Du reste, je raconterai cela. Dans la matinée de cette terrible scène, le grêlé, jugeant plus pratique de spéculer sur la gratitude de Bioring que sur la réussite d'un plan que pouvait compromettre la brutalité de Lambert ou la passion de Versilov, avait fait défection et prévenu le dit Bioring. Tout cela, je l'ai su plus tard par Trichatov. À propos, je comprends mal pourquoi Lambert ne pouvait se passer du grêlé. Mais beaucoup plus intéressante pour moi est cette autre question. Pourquoi Lambert, qui détenait le document décisif, avait-il besoin de Versilov? La réponse m'est claire maintenant. Versilov lui était utile par la connaissance qu'il avait de certains détails. En cas de désastre, ce serait un excellent bouc émissaire. Enfin, son concours avait cette qualité d'être gratuit. Lorsque Bjoring, quelque diligence qu'il eût faite, entra en ligne, l'appartement de Tatiana Pavlovna offrait déjà un aspect décent. 5 minutes après la chute de Versilov, Lambert, que tout le monde croyait déjà dans l'au-delà, avait pris sa toque et son manteau et s'était retiré, oubliant le document sur la table. J'ai entendu dire qu'il n'avait pas même été malade. Le coup de crosse l'avait seulement étourdi et ensanglanté. Cependant, Trichatov s'était mis en quête d'un médecin. Mais avant l'arrivée du médecin, Versilov avait repris connaissance aussi. Et Tatiana Pavlovna, qui avait eu le temps de ranimer Catherine Nikolaïevna, la reconduisait à domicile. De sorte que, lorsque Bjoring entra, il ne restait dans l'appartement, outre moi, que le médecin, Versilov et maman, que le même Trichatov était allé quérir. Bjoring nous regarda avec une muette perplexité et, constatant l'absence de Catherine Nikolaïevna, se rendit aussitôt chez elle. Il voyait inévitable la divulgation du scandale. Or, il n'y eut qu'une rumeur. On ne réussit pas, il est vrai, à cacher le coup de revolver. Mais l'histoire principale resta dans l'ombre. L'enquête avait établi seulement qu'un certain V, amoureux, quoique père et quinquagénaire, s'était tiré un coup de pistolet en informant de sa passion une personne, digne de tout respect, qui s'est montrée rebelle. Rien de plus ne transpira. C'est sous cet aspect décoloré que la nouvelle pénétra dans les journaux, en communications imprécises, sans nom propre, avec à peine des initiales. Je sais, du moins, que Lambert, par exemple, ne fut nullement inquiété. Néanmoins, Bjoring prit peur. Ajoutons qu'il sut que, 2 jours avant le dénouement, sa future épouse avait eu un long tête-à-tête avec ce Versilov amoureux d'elle. Il se permit imprudemment de faire observer à Catherine Nikolaïevna que, dans ces conditions, il ne s'étonnait plus qu'elle pût être l'héroïne de si fantastiques histoires. Catherine Nikolaïevna l'avait aussitôt éconduit, sans colère mais sans hésitation. Tous ses préjugés sur la sagesse d'un mariage avec Bjoring disparurent comme fumée. Peut-être avait-elle deviné dès longtemps l'inanité de cette sagesse. Peut-être les récents incidents l'avaient-ils dessillée. Mais ici, je me tais de nouveau. J'ai entendu dire que Lambert, qui était retourné à Moscou, s'y était fait prendre pour une quelconque friponnerie. Quant à Trichatov, malgré mes recherches, je ne pus retrouver sa trace. Il avait disparu après la mort de son ami, le grand dadais, lequel s'était fait sauter la cervelle. 2. J'ai noté en passant la mort du prince Nicolas Ivanovitch. Le sympathique vieillard trépassa, sans que je l'eusse revu, 1 mois après son évasion forcée de chez Pierre Hippolytovitch. Il mourut dans son lit d'une attaque d'apoplexie. Il était, racontait-on, devenu beaucoup plus raisonnable, ne s'effrayait plus, ne pleurait plus et ne faisait nulle allusion à Anna Andreïevna. Tout son amour s'était concentré sur sa fille. Une fois, c'était 1 semaine avant qu'il mourût, Catherine Nikolaïevna lui avait proposé de me faire venir, mais il avait froncé les sourcils. Ce fait, je le consigne, sans explication. Ses affaires territoriales étaient en ordre. Il disposait, en outre, d'un capital très important, dont le tiers devait être distribué à ses nombreuses filleules. Ainsi stipulait son testament, lequel d'ailleurs était muet sur le compte d'Anna Andreïevna, ce qui fut remarqué. Mais voici un fait que je tiens de la source la plus sûre. Quelques jours seulement avant sa mort, il manda ses amis Pelitchev et le prince Véonski, et en leur présence chargea sa fille de remettre, lui mort, 60 000 roubles à Anna Andreïevna. Il avait exprimé cette volonté bien nettement et avec une simplicité parfaite. Par avoué, Catherine Nikolaïevna notifia ce legs à la bénéficiaire, laquelle refusa d'entrer en possession, bien qu'on lui représentât que le prince avait testé en état d'incontestable lucidité. L'argent l'attend encore à présent, et Catherine Nikolaïevna espère toujours que la légataire changera d'avis. Mais ce ne sera pas, je le sais pertinemment. Le refus d'Anna Andreïevna fit quelque bruit. La vieille Fanariotov, qui avait été fort scandalisée de voir sa nièce s'afficher avec le prince, lui restitua pleinement son estime sur ce coup de désintéressement. En revanche, son frère se brouilla avec elle. « Elle me reçoit fréquemment et avec plaisir, mais jamais nous ne parlons du passé. Récemment, elle m'a affirmé son intention de se cloîtrer. Je prends cela pour une boutade d'amertume. Mais c'est avec des mots d'amertume vrais que je dois parler de ma sœur Lise. » Le prince mourut à l'hôpital, la laissant enceinte. Son caractère subit une modification profonde. Elle semblait infiniment distante des choses et des gens, et néanmoins elle secondait maman dans les besognes domestiques, soignait Versilov, taciturne mais si douce. Quand celui-ci alla mieux, elle commença de dormir beaucoup. Je lui apportais des livres, elle ne les lisait pas. Elle s'émacia. Souvent je me rendais auprès d'elle dans le dessein de soulager sa peine. En sa présence, je ne trouvais pas de parole. Elle fit dans notre escalier une chute de 3 marches qui occasionna une fausse couche, et sa maladie dura presque tout l'hiver. Elle a enfin quitté le lit, mais sa santé est ébranlée pour longtemps. Avec maman, elle commence à parler un peu. Ces jours-ci, le soleil brille de tout son printemps, et je me ressouviens de ce matin ensoleillé de l'avant-dernier automne où nous allions dans la rue, pressés l'un contre l'autre, joyeux, pleins d'espoir et nous aimant. Hélas, qu'adviendra-t-il d'elle? Il y a 3 semaines, j'ai réussi pourtant à l'intéresser à des nouvelles de Vassine. Il était enfin relaxé. Cet homme raisonnable avait, disait-on, démontré qu'il n'était pas un danger pour l'État. Son fameux manuscrit n'était plus qu'une traduction du français, d'où tirer un article pour quelque revue russe, réside maintenant dans le gouvernement de... Son beau-père, Stiebielkov, est toujours sous les verrous. L'affaire où il est impliqué prend d'inquiétantes proportions. Lise avait écouté ce que je disais de Vassine avec un sourire singulier. Infailliblement, cela devait finir ainsi, disait-elle. D'ailleurs, enchantée que la dénonciation de feu le prince Serge Petrovitch n'eût pas été trop funeste au dit Vassine. Sur Diergatchov et compagnie, je n'ai rien à communiquer. J'ai fini. Peut-être, tel lecteur voudrait-il savoir ce qu'est devenu mon idée et quelle est cette nouvelle vie dont je parle de façon sibylline. Il n'y a là qu'un avatar de mon idée de jadis, devenu méconnaissable peut-être sous ces espèces nouvelles. Mais tout cela ne peut figurer dans mon journal. Pourtant, j'ajouterai l'indispensable. Mon amie Tatiana Pavlovna me presse d'entrer au plus vite à l'université. Avant tout, termine tes études. J'entends cela quotidiennement. Je n'ai encore rien décidé. Comme je lui faisais remarquer que le plus urgent était que je soutinsse par mon travail maman et Lise, elle déclara mettre à ma disposition tout l'argent dont elle dispose, soit une somme suffisante pour subvenir aux dépenses de la famille pendant toute la durée de mes études universitaires. Je résolus de demander conseil à un homme compétent. Après mûre réflexion, j'ai lu Nicolas Siméonovitch, mon ancien professeur de Moscou, le mari de Maria Ivanovna. Ce n'est pas que j'eusse si grand besoin d'un conseil, mais il me démangeait de connaître l'opinion de ce personnage pondéré, tout à fait étranger aux événements que je relate et quelque peu égoïste. Je lui expédiai mon manuscrit, lui demandant le secret, car je n'avais encore communiqué ses pages à personne, et notamment les avait tenus hors de la portée de Tatiana Pavlovna. il me le réexpédia 15 jours après. Y était jointe une lettre assez longue, d'où je distrais quelques fragments. 3. Et vous ne pouviez, mon inoubliable Arkad Makarovitch, employer avec plus de profit votre loisir temporaire. En libellant ce journal, vous vous êtes, pour ainsi dire, rendu compte de vos premiers pas, si périculeux dans l'arène de la vie. Je crois fermement que par ce moyen, vous avez pu refaire votre éducation. Je ne me permettrai pas d'observation proprement critique, quoique chaque page en appelle. Une, pourtant, entre des centaines. Ce fait que vous ayez détenu le document si longtemps et si obstinément est au plus haut degré caractéristique. Que vous m'ayez communiqué et me l'ayez communiqué à moi seul le secret de votre idée, je vois là une marque de votre confiance. Tenez pour sûr que j'y suis sensible. Mais, me dérobant à votre demande, je renonce à émettre un avis sur cette idée. Premièrement, parce qu'il occuperait plus de place que n'en comporte cette lettre, et deuxièmement, parce que je ne l'ai pas encore suffisamment mûri. Je remarquerai seulement que votre idée excelle par l'originalité. Quand la plupart des jeunes gens actuels se jettent sur des idées, souvent dangereuses d'ailleurs, qu'ils n'ont pas inventées. La vôtre vous aura préservé, du moins pour le moment, de celle de messieurs Diergatchov et compagnie, qui sans aucun doute est moins originale. Enfin, touchant votre entrée à l'université, je m'associe à la manière de voir de l'estimable Tatiana Pavlovna, que je connaissais personnellement, mais que jusqu'aujourd'hui je n'avais pas apprécié à sa valeur, qui est haute. Il ne fait pas de doute que 3 ou 4 ans de culture systématique ne développent à souhait le champ de vos spéculations. Il vous sera loisible ensuite de revenir à votre idée, si vous le jugez à propos. Encore que vous ne m'y sollicitiez pas, laissez-moi maintenant vous exposer sans fard quelques-unes de mes impressions à la lecture de votre si sincère journal. Oui, j'estime, avec André Petrovitch, qu'en effet on pouvait craindre pour votre santé morale, du fait d'une enfance solitaire. Mains adolescents, placés dans des circonstances analogues, manifestent le goût de la servilité ou des désirs sournois de désordre. Mais cette appétence du désordre provient souvent d'un vœu obscur d'ordre, de vérité et de décence. Je me sers de votre vocabulaire. À qui la faute s'il voit cette vérité et cet ordre dans des théories si ineptes que l'on s'étonne qu'il puisse y donner créance? Je noterai à ce propos que dans un passé encore récent, nos intéressants jouvenceaux avaient beau se laisser aller à de condamnables excès, ils finissaient presque toujours par se fondre dans l'unité des hautes couches de notre civilisation, et alors, devenus hommes, s'appliquaient à utiliser loyalement les moules consacrés. Si j'étais un romancier russe et que j'eusse du talent, je ne prendrais mes héros que parmi l'ancienne noblesse russe, seul milieu où il soit possible de mettre en valeur ses conceptions sereines et équilibrées, par quoi signifie un roman dont l'auteur a souci d'exercer une influence heureuse. Et je dis cela sans plaisanter le moins du monde, quoique pas gentilhomme, ce que du reste vous savez vous-même. Voyez Pouchkine. Il situait dans les traditions aristocratiques de la famille russe le sujet des romans que la mort l'empêcha d'écrire. Là, en effet, se trouve tout ce que nous avons eu de beau jusqu'ici. Du moins, tout ce que nous avons eu d'équilibré. Non que j'estime que cette beauté fût sans tare, ou cet équilibre rigoureusement stable, mais enfin, il y avait là des formes fixes où l'honneur et le devoir puissent s'inscrire. Je parle en homme de sens rassis et ami de la tranquillité. Est-il authentique, cet honneur? Est-il légitime, ce devoir? C'est une autre question, et qui prêterait à d'interminables controverses. Tandis que d'ores et déjà, je considère comme évidente la nécessité de l'ordre dans notre édifice russe. J'entends un ordre qui ait été vécu et parachevé par la race. Hors de cela, il y a cette litière que vous savez, cette litière de copeaux, de décombres et de détritus, d'où depuis 200 ans rien ne s'élève. Et voici que vers les bas-fonds où grouille cette balayure, la haute société détache des lambeaux d'elle-même et suit d'un œil joyeux leur chute. Laissons les métaphores et revenons à mon romancier imaginaire. Eh bien, il en sera réduit à remonter les âges pour retrouver ou pour créer, sans trop d'invraisemblance, des figures dont la contemplation réconforte. Bref, il devra s'évertuer dans le genre historique. Les figures d'aujourd'hui sont trop flottantes et leurs grimaces trop instables. Voyez par exemple les deux ménages de M. Versilov. Cette fois, permettez-moi d'être tout à fait franc. Je n'entre pas dans les détails sur André Petrovitch, gentilhomme de la souche ancienne et communard parisien, amoureux de la Russie et tout ensemble son contempteur, impie et prêt à mourir pour une chimère. En somme, lui, c'est encore une façon d'ancêtre. Or, voici sa famille légitime. Dirais-je, le fils, le chambellan? Il suffit d'avoir des yeux pour savoir où peuvent arriver des garnements de sa sorte. La fille? Une succédanée de l'abbesse Mitrofania. Que si vous m'objectez, Arkade Makarovitch, que cette famille est un accident, vous m'en verrez ravi. Mais au contraire, ne sera-t-il pas licite de généraliser et de voir avec elle nombre d'autres familles anciennes aboutir à des familles de hasard et chaotiquement s'y confondre? Le type de cette famille de hasard, votre manuscrit nous le montre à plein. Oui, Arkade Makarovitch, vous êtes membre d'une famille de hasard. Je l'avoue, je ne voudrais pas être le romancier d'un héros tiré d'une famille de hasard. Prétendre cliché une humanité en formation, tentative ingrate, Arkade Makarovitch. Comment empêcher ces figures barbares de faire craquer la ligne où il faut qu'une œuvre d'art s'enferme? Comment éviter les erreurs, les exagérations, les lacunes? En tout cas, l'auteur ou le lecteur aurait trop à deviner. Que reste-t-il donc à faire à un écrivain qui ne veut pas se restreindre au seul genre historique et que sollicite la vie quotidienne? Deviner et se tromper. Mais un journal comme le vôtre pourrait, me semble-t-il, servir de matière première à une œuvre d'art future, au tableau d'une époque désordonnée, mais révolue déjà. Oui, à la faveur du recul, l'artiste trouvera peut-être des formes belles pour représenter le chaos et le désordre passé. C'est alors que l'on aura besoin de mémoires telles que les vôtres, qu'il soit seulement sincère. C'est à lui qu'il appartiendra d'en isoler telle notion révélatrice et de discerner à leur lumière ce qui pouvait se cacher dans l'âme d'un adolescent de cette époque trouble. Enquête dont l'importance n'est pas vaine, car c'est avec les adolescents que se constituent les générations.